Chapitre 72. Lorsqu'Armand se réveilla, Moira avait disparu. La journée s'annonçait froide, grise et pluvieuse. Dans les hauteurs, la mer agitée se parait d'écume blanche, mais les montagnes de vagues qui avaient surgi sous les éclairs nocturnes s'étaient considérablement aplanies. Armand avait mal dormi, tourmenté par des rêves annonciateurs de catastrophe. Il enroula le duvet ultra fin, qui avait la propriété de sécher tout seul, pour le ranger dans son sac à dos, puis enfila chaussettes et bottes par-dessus sa thermopo, se dispensant du reste de ses vêtements. Ils avaient bien fait un feu de camp la veille, sans y rôtir ni saucisses ni marshmallows, deux aliments qu'Armand ne connaissait que par les livres absorbés au Taj, et il avait achevé sa barre nutritive quotidienne et siroté de l'eau tout en contemplant les flammes vacillantes. Les cendres formaient un petit tas gris et humide. Le sol de la brèche se partageait entre roches, corail et gadou, et Armand s'aperçut qu'il tournait en rond autour des ruines de leur camp, en quête d'une trace laissée par Moira, d'une note peut-être. Il n'y avait rien. Il assura le sac sur son dos, rabaissa la cagoule de la thermopo pour mettre les lunettes en place, les essuya et se mit en route vers l'ouest. Au fil de la journée, et contrairement à ses prévisions, le ciel alla en s'assombrissant, la pluie gagna en violence et les murailles d'eau se firent plus hautes et plus oppressantes. Plutôt que de descendre au fond de l'océan, il avait l'impression que les murs ne cessaient de grandir, une illusion d'optique à laquelle il avait fini par s'habituer. Armand marchait obstinément. La piste qu'il suivait traversa des massifs de roches noires, enjamba des crevasses abyssales au moyen de ponts en fer forgé étroits et glissants, grimpa sur des crêtes escarpées. Bien qu'en ces endroits les murs parussent moins hauts, la profondeur de l'océan ne devait pas dépasser les 60 mètres, estima-t-il, il se sentait gagné par l'épuisement et la claustrophobie, car les parois rocheuses ajoutées aux murailles d'eau lui donnaient l'impression d'être enfermé par plusieurs couches de cloisons. En milieu de journée, il dut consulter sa fonction horloge pour se faire une idée de l'heure, car le soleil demeurait invisible et la pluie tombait avec une telle violence qu'il envisageait de remettre son masque osmotique. La brèche sortit de la zone montagneuse et il la vit s'étendre sur un terrain plat à perte de vue. Voilà qui était de nature à le mettre de meilleure humeur, d'un rien. C'était avec joie qu'il abordait les tronçons de roches ou de corail, car les parties sablonneuses, plaisamment fermes par temps sec, n'étaient plus maintenant que des boulevards embourbés. Finalement, à bout de force, il était passé midi hors local, quelque part au sud de l'Angleterre, il s'assit sur un rocher émergeant de l'océan côté nord et sortit sa barre quotidienne pour la mâchonner tout en sirotant de l'eau fraîche au tube de son hydrateur. Ses barres le laissaient sur sa faim, et elles avaient un goût évoquant la sciure. Et il ne lui en restait plus que quatre. Il ne voyait vraiment pas ce que Prospero et Moira avaient prévu une fois qu'il aurait mangé la dernière, en supposant, comme il le pensait, qu'il lui restait 70 ou 80 jours de randonnée. Son arme serait-elle vraiment efficace sous l'eau? Et s'il arrivait à abattre un gros poisson, aurait-il la force de le traîner à l'air libre? Les algues et le bois flotté se faisaient déjà de plus en plus rares. Comment était-il censé faire cuire cette pêche théorique? Il avait un briquet dans son sac, ou plutôt un outil multifonction, couteau, cuillère, fourchette, etc., ainsi qu'un bol métallique à mémoire de forme qu'il pouvait transformer en poêle. Mais était-il vraiment supposé perdre des heures et des heures à chercher du poisson? Armand remarqua un autre rocher, 700 ou 800 mètres plus à l'ouest. Ce truc était énorme, d'une taille comparable aux crêtes les plus élevées qu'il avait dû négocier, et il saillait de la muraille nord juste avant que la brèche s'enfonce dans une nouvelle fosse. Mais, décidément, il avait une forme bien étrange. Plutôt que traverser la brèche, auquel cas on aurait ouvert un passage en son milieu, il semblait tomber de l'eau selon un angle oblique pour s'enfoncer dans le sable et la boue. Et il avait un aspect étrangement lisse, bien plus que le basalte qu'Armand foulait depuis 3 jours. Il avait appris à activer et à manipuler le télescope intégré dans les lunettes de sa thermopo, et c'est ce qu'il fit à présent. Ce n'était pas un rocher. C'était un engin artificiel qui surgissait de l'eau côté nord pour plonger son nez dans le sable. Il était gigantesque, et sa forme évoquait vaguement celle d'un dauphin, éventré aux entrailles métalliques, avec un corps dont les courbes s'évasaient comme la cuisse d'une femme, avant de disparaître derrière le champ de force. Harman rangea ce qui restait de sa barre nutritive, attrapa son arme, la fixa sur la plaque en velcro de sa ceinture et se mit en marche vers le navire englouti. Une fois planté sous l'appareil massif, bien plus grand qu'il ne l'avait estimé de loin, Harman jugea que ce devait être une sorte de sous-marin. Sa proue était fracassée, la partie visible de son armature était tout rouillée sous l'effet de la pluie plutôt que de l'océan, mais sa coque lisse, d'un aspect presque caoutchouteux, paraissait relativement intacte, à tout le moins la section qui émergeait des eaux retenues par le champ de force. Harman distinguait la partie immergée sur une dizaine de mètres, pas plus. Il fixa la grande brèche ouverte dans cette coque, une brèche dans la brèche, se dit-il bêtement tandis que la pluie tombait à verse sur ses lunettes, et songea qu'elle lui permettrait d'entrer dans le sous-marin. Ce qui serait totalement stupide, il n'en douta pas une seconde. Sa mission n'était pas d'explorer des épaves deux fois millénaires, mais de gagner Ardis, ou à défaut la communauté humaine la plus proche, et ce, le plus vite possible. En 75 jours, 150 ou 300, aucune importance. Il n'avait qu'une seule chose à faire, continuer vers l'ouest. Il ignorait ce que pouvait abriter cette machine de l'air perdu, mais peut-être courait-il un danger en l'explorant, et en tout cas, elle ne contenait sûrement rien qui soit susceptible d'enrichir l'instruction qu'il avait reçue dans le cabinet de cristal. Cependant, Harman n'avait pas eu besoin de subir l'éducation par la noyade pour savoir que son espèce, si génétiquement modifiée, si nano-renforcée fût-elle, descendait du singe et de l'hominien. La curiosité avait tué quantité de ses nobles ancêtres, mais elle les avait aussi conduits à adopter la station debout. Harman rangea son sac à dos à quelques mètres du sous-marin, il était certes étanche, mais peut-être résistait-il mal à la pression, empoigna son arme à feu de la main droite, activa les deux projecteurs placés sur son torse et s'insinua à travers les poutrelles métalliques pour s'engager dans les coursives enténébrées de la machine morte.